2. Madame le maire Arlan Brano ouvrit la séance du conseil exécutif. C'est sans signe visible d'intérêt que son regard avait parcouru la réunion. Pourtant, nul ne doutait qu'elle avait remarqué tous ceux qui étaient présents comme tous ceux qui n'étaient pas encore arrivés. Ses cheveux gris étaient soigneusement coiffés dans un style ni franchement féminin, ni faussement masculin. C'était son style de coiffure, sans plus. Ses traits neutres n'étaient pas remarquables par leur beauté, mais à vrai dire, ce n'était pas la beauté que l'on cherchait en ces lieux. Elle était l'administrateur le plus capable de la planète. Nul ne pouvait l'accuser, et nul ne le faisait, d'avoir l'éclat d'un Salvor Hardin ou d'un Aubert Malot dont les aventures avaient animé l'histoire des deux premiers siècles de la Fondation. Mais nul ne l'aurait non plus assimilé aux frasques de la lignée Hindebourg qui avait dirigé la Fondation juste avant l'époque du mulet. Ses discours n'étaient pas faits pour émouvoir. Elle n'avait pas non plus le don des effets théâtraux. Mais elle savait prendre avec calme des décisions et s'y tenir aussi longtemps qu'elle était persuadée d'avoir raison. Sans charisme apparent, elle avait le coup pour persuader les votants que ses calmes décisions étaient effectivement les bonnes. Puisque, selon la doctrine de Seldon, tout changement historique se révèle dans une large mesure difficile à dévier, si l'on accepte toujours l'imprévisible facteur qu'oublie la plupart des seldonistes malgré le déchirant épisode du mulet, la Fondation aurait dû coûte que coûte maintenir sur Terminus sa capitale. Aurait dû, notons-le. Car Seldon, dans la toute dernière apparition de son simulacre vieux de 5 siècles, avait calmement estimé à 87,2% sa probabilité de demeurer sur Terminus. Quoi qu'il en soit, même pour un seldoniste, voilà qui signifiait donc qu'il y avait 12,8% de chances que se fût effectué le transfert vers un point plus proche du centre de la Fédération, avec toutes les sinistres conséquences soulignées par Seldon. Si cette éventualité, estimée à 1 contre 8, ne s'était pas produite, c'était bien certainement grâce au maire Brano. Il était sûr qu'elle ne l'aurait pas permis. Elle avait traversé des périodes de considérable impopularité sans démordre de l'idée que Terminus était le siège traditionnel de la Fondation, et le demeurerait. Ses ennemis politiques avaient beau jeu de la caricaturer en comparant sa forte mâchoire à un éperon de granit. Et maintenant que Seldon avait soutenu son point de vue, voilà qu'elle se retrouvait, du moins pour une heure, avec un écrasant avantage politique. Elle aurait, paraît-il, confié l'année précédente que si, lors de sa prochaine apparition, Seldon la soutenait effectivement, elle estimerait sa tâche remplie avec succès. Dès lors, elle se retirerait des affaires et prendrait du recul plutôt que de se risquer dans de nouvelles guerres politiques à l'issue douteuse. Personne ne l'avait vraiment cru. Elle se sentait chez elle au milieu des guerres politiques à un point rarement rencontré chez ses prédécesseurs. Et maintenant que l'image de Seldon était venue et repartie, il n'était apparemment plus question de départ en retraite. Elle s'exprimait d'une voix parfaitement claire, avec un accent de la Fondation qu'elle ne cherchait nullement à dissimuler. Plus tôt dans sa carrière, elle avait été ambassadrice sur Mandres, sans pour autant adopter ce vieil accent impérial qui était à présent tellement en vogue et qui contribuait en partie à cette attirance quasi impériale pour les provinces intérieures. Elle commença. La crise Seldon est terminée, et c'est une tradition fort sage au demeurant qu'aucune représaille d'aucune sorte, en acte ou en parole, ne soit entreprise contre ceux qui ont soutenu le mauvais parti. Combien d'honnêtes gens ont cru trouver de bonnes raisons pour désirer ce que Seldon ne voulait pas. Il serait vain de les humilier encore, au risque qu'ils ne puissent retrouver leur amour-propre qu'en dénonçant le plan Seldon. En revanche, c'est une coutume fort louable que ceux qui ont soutenu le parti perdant acceptent de bon cœur leur défaite et sans autre forme de procès. D'un côté comme de l'autre, la décision a été prise. Irrévocablement. Elle marqua une pause, considéra l'assemblée d'un regard égal avant de poursuivre. La moitié du temps est écoulée, messieurs les conseillers. La moitié du millénaire entre les deux empires. Ce fut une période difficile, mais nous avons parcouru une longue route. Nous sommes à vrai dire pratiquement déjà un empire galactique, et il ne reste plus d'ennemis extérieurs notables. L'interrègne aurait duré 30 000 ans en l'absence du plan Seldon. Au bout de ces 30 000 années de désintégration, sans doute l'énergie aurait-elle fait défaut pour rebâtir un nouvel empire. Ne serait resté peut-être que quelques mondes isolés et sans doute agonisants. Ce que nous avons aujourd'hui, nous le devons à Harry Seldon. Et c'est à cet esprit depuis longtemps disparu que nous devons continuer de faire confiance. Le danger qui nous guette, conseiller, réside en nous-mêmes. Et de ce point de vue, on ne peut officiellement douter de la valeur du plan. Agréons donc dès maintenant, avec calme, mais fermeté, qu'il ne sera dorénavant jamais émis officiellement le moindre doute, la moindre critique, la moindre condamnation du plan. Nous devons le soutenir totalement. Il a fait ses preuves sur plus de 5 siècles. C'est le garant de la sécurité de l'humanité et on ne doit en rien l'altérer. Est-ce d'accord ? Il y eut un léger murmure. C'est à peine si Madame le maire leva les yeux pour chercher une confirmation visuelle de leur accord. Elle connaissait chacun des membres du conseil et savait déjà comment réagirait chacun. Dans le sillage de la victoire, il n'y aurait aucune objection. L'an prochain, peut-être, mais pas maintenant. Et les problèmes de l'an prochain, elle s'y attellerait l'an prochain. Hormis, comme toujours, de la télépathie, mère Brano, demanda Golan Trevis, descendant à grands pas la travée et s'exprimant d'une voix forte, comme pour compenser le silence de l'assistance. Il ignora son siège, situé dans la rangée du fond puisqu'il était nouveau au conseil. Brano n'avait toujours pas levé la tête. Elle dit « Votre opinion, conseiller Trevis ?» Et que le gouvernement ne peut bannir la liberté d'expression. Que tous les individus, et à plus forte raison les membres du Conseil qui ont été élus dans ce but, ont le droit de discuter les décisions politiques de l'heure. Et qu'aucune décision politique ne peut être isolée du plan Seldon. Brano croisa les mains et leva les yeux. Son visage était inexpressif. Elle répondit « Conseiller Trevis, vous êtes irrégulièrement entré dans ce débat et ce faisant, vous vous en êtes exclu. Toutefois, vous ayant demandé d'exprimer votre opinion, je m'en vais à présent vous répondre. Il n'y a aucune limite à la liberté d'expression dans le cadre du plan Seldon. Le plan seul nous limite par sa nature même. Il peut y avoir bien des façons d'interpréter les événements avant que l'image ne présente la décision finale, mais une fois cette décision prise, le Conseil n'a plus à la remettre en question. Pas plus qu'on ne doit à l'avance la remettre en question, comme si l'on s'avisait de dire « si jamais Harry Seldon devait décider ceci ou cela, il aurait tort ». Et pourtant, si quelqu'un était sincèrement de cette opinion, Madame le maire, eh bien, ce quelqu'un pourrait l'exprimer, à condition que ce soit auprès d'une personne privée, et seulement en privé. Vous voulez donc dire que les limitations à la liberté d'expression que vous vous proposez d'instaurer ne s'appliquent entièrement et exclusivement qu'aux fonctionnaires du gouvernement ? C'est exact. Le principe n'est pas neuf dans le cadre des lois de la Fondation et fut déjà appliqué par des maires de toutes tendances. Le point de vue d'un particulier ne signifie rien. L'expression officielle d'une opinion a un poids et peut se révéler dangereuse. Nous ne sommes pas allés aussi loin pour risquer un tel danger maintenant. Puis-je faire remarquer, Madame le maire, que le principe que vous invoquez n'a été appliqué par le Conseil qu'en des cas bien précis, strictement limités et fort peu nombreux? Jamais le Conseil ne l'a appliqué dans un cadre aussi vaste et mal défini que celui du plan Seldon. C'est le plan Seldon qui a le plus besoin de protection, car c'est précisément là qu'une telle remise en question peut se révéler la plus lourde de conséquences. N'avez-vous pas envisagé, maire Brano ? Trévise s'interrompit pour se tourner à présent vers les rangs des conseillers assis et qui semblaient, comme un seul homme, retenir leur souffle comme dans l'attente d'un duel. « Et vous ? » reprit-il, « membre du conseil, n'avez-vous pas envisagé la possibilité fort probable qu'il n'y ait pas de plan Seldon du tout ?»
Nous avons tous pu le voir à l'œuvre encore aujourd'hui, contra le maire Brano, d'autant plus calme que Trévise devenait plus fougueux et lyrique.
Et c'est bien précisément parce que nous l'avons vu à l'œuvre aujourd'hui, mesdames et messieurs les conseillers, que nous pouvons constater que le plan Seldon, tel qu'on nous a demandé d'y croire, ne peut pas exister.
Conseiller Trévise, vous outrepassez vos droits, et je vous interdis de poursuivre dans cette voie.
Vous oubliez que je bénéficie de l'immunité de ma charge. Cette immunité vous est dorénavant retirée, conseiller. Vous ne pouvez pas me la retirer. Votre décision de limiter la liberté d'expression ne peut en soi avoir force de loi. Il n'y a pas eu vote du conseil sur ce point. Et même si cela était, je serais en droit de remettre en question sa légalité.
Ce retrait, conseiller, n'a rien à voir avec mes décisions visant à protéger le plan Seldon.
Dans ce cas, sur quoi le fondez-vous ?
Je vais vous le dire.
Vous êtes accusé de trahison, conseiller.
Je souhaiterais épargner à cette assemblée le désagrément d'une arrestation en pleine chambre, mais je vous signale que derrière cette porte vous attendent des gardes de la sécurité qui sont chargés de vous mettre la main dessus dès que vous serez sorti. Je vais vous demander à présent de quitter cette salle sans faire de difficulté. Le moindre geste inconsidéré de votre part serait bien entendu interprété comme une agression, forçant la sécurité à pénétrer dans la chambre. J'espère que vous ne nous contraindrez pas à cette extrémité.
Trévise fronça les sourcils. La salle du conseil était plongée dans un silence absolu. Qui pouvait s'attendre à cela ? Hormis lui et Comport ?
Il se retourna vers la porte. Il ne vit rien, mais il était certain que le maire Brano ne bluffait pas. Il en bafouilla de rage.
« Je représente une importante circonscription, maire Brano, nombre d'électeurs,
et nul doute que vous allez les décevoir. »
Sur quelle preuve étayez-vous donc cette accusation délirante ?
Cela sera révélé en temps opportun. Mais soyez assurés que nous détenons tout ce qu'il faut. Vous êtes un jeune homme extrêmement indiscret. Et vous devriez vous rendre compte que l'on peut fort bien être votre ami sans pour autant souhaiter vous suivre dans votre trahison.
Trévise fit volte-face, cherchant du regard les yeux bleus de Comport. Celui-ci soutint son regard impassible.
Le maire Brano poursuivit calmement. Je ferai remarquer à l'assistance qu'au moment où j'ai énoncé ma dernière phrase, le conseiller Trévise s'est tourné pour regarder le conseiller Comport. Voulez-vous sortir à présent, conseiller Trévise ? Ou bien allez-vous me contraindre à la pénible procédure d'une arrestation en pleine chambre ?
Golan Trévise se tourna, gravit de nouveau les marches de la salle du conseil et, une fois à la sortie, se retrouva encadré par deux hommes en uniforme bardés d'armes. Et le regardant partir, impassible, Arlan Brano murmura entre ses lèvres à peine entrouvertes : « Idiot !»